Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles afin de lire les textes de la prédication. Donc il y aura un texte principal et trois textes complémentaires. Alors tout d'abord, en Jacques, au chapitre 5, le verset 12. Alors si vous avez la même Bible que moi, c'est page 261. Jacques, chapitre 5, verset 12. « Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Ensuite, nous allons aller dans l'Ancien Testament en Lévitique, au chapitre 19, Lévitique 19, des versets 12 à 18. Lévitique 19, des versets 12 à 18. « Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui ne puisse le faire trébucher. Mais tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand. Mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et maintenant, nous allons naviguer dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, des versets 33 à 37. Matthieu 5, des versets 33 à 37. « Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Et toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, des versets 16 à 23. Donc Matthieu 23, des versets 16 à 23. « Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. »
Si nous enlevons la vérité, l'intégrité ne peut plus être vécue. Sans vérité, pas d'intégrité. Eh bien, si le Saint-Esprit n'agit pas lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, la transformation ne peut pas arriver en nous. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit encore aujourd'hui pour ouvrir sa parole. Et nous continuons dans le livre de Jacques. Cet épître que nous sommes en train de parcourir ensemble, peut-être avez-vous remarqué que Lévitique 19, que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, vous a fait entrer dans le sujet du jour, dans le premier verset, et ensuite les versets suivants, c'est quasiment toutes des choses qu'on a déjà vues dans l'épître. Vous pouvez reprendre ça, faire un parallèle, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais comme ça vous saurez que Lévitique 19, il y a plusieurs éléments, presque tous les éléments jusqu'au verset 18, qu'on retrouve dans l'épître de Jacques. Nous sommes actuellement dans la partie que j'ai intitulée « Une artillerie ancrée dans la foi contre divers maux ». Et nous avons vu déjà quelques éléments ensemble. Le premier que nous avions vu, c'était la foi anti-médisance, au chapitre 4, versets 11 et 12. Donc en étant soumis à Dieu qui juge, en qui nous croyons, nous désirons le bien des autres et le manifestons par des paroles qui valorisent. La foi anti-médisance. Ensuite, deuxième élément de cette artillerie, nous avons vu la foi anti-arrogance. Hein, chapitre 4, versets 13 à 17. Donc, conscient de nos manquements, de notre fragilité, nous faisons des projets en croyant que c'est la volonté de Dieu qui se fera. Ça, c'est la foi anti-arrogance. Ensuite, nous avions vu la foi anti-avarice. Chapitre 5, versets 1 à 6. Notre richesse, en fait, n'est pas nos biens qui vont disparaître. Peut-être que c'est un scoop, hein, mais ils vont disparaître, nos biens. Donc, nous sommes appelés à les utiliser d'une façon juste et avec foi. L'élément suivant qu'on a vu la dernière fois, c'était la foi anti-impatience. Chapitre 5, versets 7 à 11. Hein, donc, motivés par le retour de Jésus-Christ, nous supportons la souffrance avec patience, ayant les prophètes et Job comme exemple de foi. Et nous avions vu évidemment aussi Christ, le centre. Et aujourd'hui, nous arrivons au dernier élément de cette artillerie que j'ai intitulé « La foi anti-corruption ». La foi anticorruption uniquement sur un verset, le chapitre 5, verset 12. Nous aimons et vivons dans la vérité qui n'a besoin d'aucun serment dans la vie quotidienne vécue dans la foi. Voilà un petit peu le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Hein. Donc, cette vérité que nous aimons et que nous vivons n'a besoin d'aucun serment dans la vie quotidienne vécue dans la foi. Peut-être avez-vous déjà vu en Suisse que lorsque les conseillers fédéraux sont élus, et alors qu'ils vont prendre leurs fonctions, ils font un serment. Hein? Voici ce qui est lu, je vais vous le lire. Il est dit « Je jure devant Dieu Tout-Puissant d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge. » Et il lève trois doigts, comme ça. Vous avez déjà vu ? Ben comme ça, vous le voyez une fois, mais c'est les conseillers fédéraux qui font ça, moi je ne suis pas conseiller fédéral. Ils lèvent les trois doigts comme ça, et puis en fait, il y a une signification. En fait, les trois doigts font référence à la Trinité. Le pouce, le Père, l'index, le Fils, le majeur, le Saint-Esprit. Et puis ensuite, l'annulaire et l'auriculaire qui restent en bas représentent en fait l'âme et le corps qui sont tournés vers la terre et se plient devant le divin. Donc quand vous voyez ce signe-là, ben, il y a une signification, donc quand il y a un serment qui est fait. Il existe aussi, depuis quelques années, une forme laïque, puisque voilà, tous les conseils fédéraux ne sont pas d'accord de faire ce signe-là et de le faire de ce sens-là. Donc une forme laïque qui existe, c'est vrai, qui est une promesse, c'est simplement y mettre la main sur la poitrine. Donc vous voyez la différence visuellement lorsque les serments sont faits. Il existe d'autres serments officiels, comme celui de la police. Hein, on dit que les personnes sont assermentées, parce qu'ils ont fait un serment. Ou le serment d'Hippocrate qui énonce les principes déontologiques médicaux est encore un autre exemple. Donc, plusieurs serments. Mais il existe aussi toute une pléthore de serments, là j'ai mis de guillemets, dans la vie quotidienne. Je te jure que j'ai pas mangé le chocolat. Ou bien en vrai, je te dis que j'ai pas triché. Ou même des jurons qui prennent le nom de Dieu en vain. Et qui sont en fait des prises de Dieu à témoin, ou pire, qui appellent au jugement de Dieu. Je suis toujours choqué lorsque j'entends le juron en allemand. Je vais vous le dire, ce juron, parce qu'il est tellement choquant, j'aimerais que vous le compreniez pour que si quelqu'un le dit, aidez-le à comprendre que c'est très grave. Hein, quand, si vous entendez ce truc « Gott verdamme », ça veut dire « Gott verdamme », ça veut dire « Dieu condamne-moi ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, je ne peux pas rester insensible quand j'entends ça. C'est une parole terrible, en fait. C'est un appel du jugement de Dieu, hein, qui est en lien, d'ailleurs, avec la fin du verset du chapitre 5, verset 12, qu'on étudie. Hein. « Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement ». Donc, je ne vais pas m'arrêter sur les jurons aujourd'hui, ce n'est pas l'idée, hein, les expressions qui prennent derrière le nom de Dieu en vain, soit directement ou par remplacement. On dit d'autres mots pour remplacer, mais en fait, le fond, c'est le même. C'est la même notion. Alors, ce n'est pas les propos du texte, c'est vrai, de Jacques 5, 12 exactement, mais je fais cette parenthèse parce que ce texte nous parle de nos paroles et des paroles qui sont en lien avec prendre le nom de Dieu en témoin. Donc, enlevons tout langage ordurier de nos paroles. Nous devons rendre compte un jour de toutes nos paroles que nous aurons prononcées. Et nous ne pourrons pas dire, mais ce sont les circonstances qui ont arraché ces paroles à ma bouche. Si vous vous tapez le doigt avec un marteau, je ne vous conseille pas, mais si vous vous tapez le doigt avec un marteau et qu'un juron sort de votre bouche, c'est votre cœur qui a guidé vos paroles. Pas votre marteau, pas votre douleur. Votre douleur, en fait, aura été un déclencheur. Mais c'est votre cœur qui aura fait sortir ces paroles. Et dès le début de cette prédication, nous nous rendons compte, si nous commençons à réfléchir, que nous avons besoin d'être purifiés de toutes les paroles mauvaises qui sont déjà sorties de notre bouche et qui nous condamnent. Réfléchissez à toutes les paroles que vous avez dites, toutes, sans aucune exception. En tout cas, pour ma part, je me rends compte que je ne passe pas un examen sans faute. Et qu'en fait, je ne mérite pas l'approbation de Dieu. J'ai besoin d'un nettoyage, d'une purification. La purification de notre langue, de ma langue, et d'une libération des mauvaises paroles que nous avons prononcées. Et cela, c'est uniquement la grâce offerte par Dieu au travers de Christ qui a payé pour ses fautes. C'est uniquement cette grâce qui nous permet de nous débarrasser du juste jugement qui pèse sur nous et nous le saisissons par la foi. C'est important de le comprendre par rapport à ce texte de Jacques 5, 12. Ce n'est pas en faisant des serments qu'on va bloquer le péché. C'est en allant à Christ et en nous repentant de nos péchés. Donc Jacques 5, 12 nous fait réfléchir aux paroles que nous prononçons et particulièrement à notre manière d'affirmer une parole que nous voulons que les autres reçoivent comme vraie. En fait, c'est qu'on veut que l'autre sache « c'est vraiment vrai ». Hein? Et on est motivé peut-être par toutes sortes de motivations, peut-être parce que c'est important pour nous, ou peut-être parce qu'on a des avantages, ou pour être bien vu, ou toutes sortes d'autres motivations. Mais est-ce juste de souligner que ce que nous disons est vrai? Alors pour commencer, nous allons tourner nos regards vers Dieu lui-même et ce qu'il enseigne concernant les serments dans la parole de Dieu, dans toute la Bible. C'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, nous réfléchirons à la question de qu'est-ce que Jacques traite dans ce verset. Et nous terminerons par voir comment notre cœur est impliqué, en fait, dans tout ce sujet. Juste en passant, si vous regardez le verset 12 de Jacques 5, il commence par « avant tout ». Bon, j'aurais pu vous faire toute une théorie sur ce pourquoi il dit « avant tout ». Je dis simplement qu'il souligne, il me semble, avec cette expression, l'importance, en fait. L'importance de la parole de vérité. Jurer et faire serment a pour rôle de certifier ce que l'on dit aux yeux des autres. Je te certifie que ce que je dis est vrai. Dans l'Ancien Testament, vous aviez, par exemple, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Ça vous dit quelque chose ? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, voilà ceci et cela. C'est une expression courante dans l'Ancien Testament en lien avec un serment. Alors, Dieu fait-il des serments ? Et le commande-t-il ? C'est notre premier point. Dieu fait serment. C'est une réalité. On peut regarder dans Genèse 22. Vous pouvez garder Jacques avec un petit doigt, là, pour le retrouver à la page 600, je ne sais plus combien, comme disait Loïc tout à l'heure. Mais sinon, revenir à Genèse, là, c'est tout au début, c'est assez facile à trouver. Genèse 22, verset 15, où nous voyons là, « L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même. » Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, etc., etc. Je te comblerai de bénédictions, je te multiplierai ta descendance. » Donc là, on voit que Dieu, en fait, fait un serment. « Je te jure par moi-même. » Et d'ailleurs, pour qu'on ne me dise pas que c'est que dans l'Ancien Testament, l'Épître aux Hébreux reprend exactement ce que Dieu dit là. Ainsi, on va dans Hébreux 6, au verset 13, il est dit « En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Donc, en faisant la promesse à Abraham, il ne pouvait pas jurer à plus grand que lui. C'est lui le plus grand, donc il jura par lui-même. La première question est donc répondue. Est-ce que Dieu fait des serments ? C'est-à-dire, jure-t-il pour affirmer une vérité ? Eh bien, oui, il le fait. Oui, il le fait. Et si Dieu le fait, ce n'est pas un acte immoral. Parce que Dieu ne se renie jamais lui-même. Il est saint, pur et parfait. Donc, s'il le fait, ce n'est pas un acte immoral. D'ailleurs, Jésus, qui est Dieu, s'est retrouvé un jour devant le Sanhédrin. Vous vous souvenez tous de ce moment tout à fait particulier, où en fait, le souverain sacrificateur lui ordonne de répondre sous serment. Et que fait Jésus ? Il répond sans se dégager de ce serment. Donc, il répond sous serment. On peut le voir dans Matthieu 26, je vais vous le lire. « Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien ? De quoi témoigne-t-il contre toi ?» Alors, Jésus, ici, n'est pas sous serment. Il lui demande de répondre. Que fait Jésus ? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, » voilà, on entre dans le serment, hein, « de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Donc Jésus est mis ici sous serment. Or Jésus pourrait garder le silence. C'est ce qu'il a fait en fait précédemment. Je continue. Jésus lui répondit. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur la nuée du ciel. Jésus a parlé sous serment. Ce n'est donc pas une pratique illégitime. Donc la première question, est-ce que Dieu fait des serments ? Ben oui. Donc on va voir d'autres textes, mais j'ai pris ceux-là. Et donc Jésus aussi a parlé sous serment. La deuxième question, est-ce que Dieu demande de faire des serments ? Est-ce qu'il le commande ? Eh bien, si nous allons dans Deutéronome, pour commencer, Deutéronome 6, 13, il est dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, c'est à lui que tu rendras un culte, tu jureras par son nom. » On va les garder, hein. C'est dans Deutéronome 6, 13. Ou dans Deutéronome 10, 20, un peu plus loin, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu lui rendras un culte, tu t'attacheras à lui et tu prêteras serment en son nom. » Un point important ici, je ne vais pas prendre tous les textes de l'Ancien Testament, j'ai pris ces deux, comme ça on a les notions. Mais vous pouvez aller lire tous les textes. Un point important, c'est que chaque fois que le serment est présenté positivement dans la Bible, il est fait au nom de Dieu et de rien ni personne d'autre. Ok ? Donc le serment est fait au nom de Dieu et de rien ni personne d'autre. Et Hébreu indique que c'est une pratique courante, avec un but. Si je reviens dans Hébreu 6, verset 16 maintenant, « Car les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment en confirmant leur parole met un terme à toute contestation. » Ici, nous voyons une utilité du serment, également, c'est de mettre fin à toute contestation. Vous pouvez aller voir dans Nombre 5, il y a aussi une situation un peu particulière aussi pour mettre fin à des contestations. Si un homme il a des doutes, si sa femme l'a trompé, etc., on passe par ces notions-ci de serment et ça met fin à toute contestation. Donc, si nous trouvons dans la parole des commandements de faire des serments, il est aussi indiqué comment ne pas le faire. Dans Lévitique 19, verset 12, qu'on a lu tout à l'heure, il est dit « Vous ne jurerez pas faussement en mon nom. » Donc le seul serment qu'on peut faire, c'est au nom de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre serment que la parole de Dieu enseigne. Et il faut les faire d'une manière qui est vraie. S'ils sont faits faussement, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il est dit « Car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Jurer faussement par le nom de l'Éternel, c'est aller en fait contre le troisième commandement, qui est « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Ok ? Donc si je résume ce que nous venons de voir dans ce premier point, Dieu fait des serments, donc ce n'est pas immoral, Dieu donne l'ordre d'en faire en son nom uniquement et dans la vérité. Et faire un serment faussement, par contre, attire le jugement de Dieu. On pourrait dire la bénédiction pour un serment tenu selon la vérité et la malédiction pour des serments non tenus ou mensongers. Ça va ? C'est pas trop compliqué, mais c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Bon, maintenant on revient dans Jacques quand même, c'est notre but, c'est de parler de Jacques. On avait besoin de ces éléments-là pour le comprendre. Donc on relit le verset 12 du chapitre 5. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, nous croyons à l'analogie de la foi, c'est-à-dire que la Bible s'explique par elle-même et qu'elle est cohérente et qu'elle ne se contredit pas. Alors, cela signifie que dans ce texte, Jacques n'interdit certainement pas tout type de serment. Il ne va pas contre l'Écriture. Mais à quoi veut-il en venir ? Eh bien, c'est les textes des évangiles, les paroles de Jésus sur lesquelles il s'appuie. En fait, Jacques s'appuie sur les paroles de Jésus ici dans ce texte, qui nous aident en fait à comprendre. On a lu les textes avant, dans Matthieu 5, les versets 33 et 37 à 37, et dans Matthieu 23, les versets 16 à 22. Et on a vu particulièrement dans le deuxième texte que les Juifs faisaient en fait une différence entre des formes de serments. Certains serments, il fallait les tenir et d'autres pas. Ben oui, si c'est par l'autel, ben il ne faut pas le tenir. Parce que c'est par le sacrifice qu'il faut tenir. Bon, il faut encore savoir que c'est le sacrifice et pas l'autel quand on est en train de discuter ensemble. Ou bien si c'est par le temple, ben il n'y a pas besoin de le tenir. Par contre, si c'est l'or du temple, ah ben là, il faut le tenir. Je ne vais pas vous faire toute l'explication. C'est juste pour vous dire qu'en fait, on est dans une situation où on fait des différences. Si par exemple, quelqu'un dit « Je te jure sur le temple, je vais te redonner les outils que je t'avais empruntés », eh ben, il n'est pas tenu de les redonner. Parce qu'il a juré sur le temple et pas sur l'or du temple. Vous comprenez l'idée ? Parce que s'il dit « Je te jure sur l'or du temple que je vais te redonner les outils », il doit les redonner parce qu'il a... Ouais, bon... En fait, cela signifie que dans leur, moi j'appelle ça dans leur délire de serment, à plusieurs niveaux, les Juifs avaient en fait introduit l'autorisation à mentir. Pourquoi il y a des choses qu'on ne doit pas tenir ? Ça veut dire qu'on peut mentir. On ne trouve ça nulle part dans la parole de Dieu. Nulle part Dieu va nous pousser à mentir. Nulle part. Donc cela signifie que dans leur délire de serment à plusieurs niveaux, les Juifs avaient en fait introduit l'autorisation à mentir que l'on trouve nulle part dans la Bible. Dans la Bible, il n'est pas dit qu'il faut dire la vérité et si un serment est fait pour souligner ou authentifier, Non, pardon, je reprends. Dans la Bible, il n'est que dit qu'il faut dire la vérité. OK ? Et si un serment est fait pour souligner et authentifier, eh bien c'est fait au nom de l'Éternel, point. Celui qui est au-dessus de tout. Donc Jésus et Jacques combattent donc les différents types de serments que les Juifs avaient mis en place avec les caractéristiques suivantes, ces deux caractéristiques. Premièrement, il était possible de faire des serments que l'on ne devait pas tenir. Et deuxièmement, les serments n'étaient pas faits uniquement au nom de l'Éternel. C'est ça qui est combattu. Comme les « je te jure que en vrai », enfin, toutes les choses, « mais je t'assure sur la tête de ma mère », je ne sais pas tout ce que j'ai déjà entendu, pour dire que voilà, c'est vraiment vrai ce que je te dis. Ben, c'est la vérité, t'as pas besoin de le souligner, c'est la vérité. Que ton oui soit oui. Donc Jésus et Jacques combattent les différents types de serments que les Juifs avaient mis en place avec ces caractéristiques, comme j'ai dit. Possible de faire des serments qui ne devaient pas tenir et des serments qui n'étaient pas uniquement faits au nom de l'Éternel. Donc dans ce cas, ne jurez pas. C'est ça en fait. Ce type de... On ne jurait pas. Les Juifs avaient mis des moyens en place afin de jurer pour tromper en fait. Je sais pas vous, moi, j'ai entendu que certains faisaient ça. Si je dis quelque chose en croisant les doigts, je dois pas le tenir. Et puis si je croise, vous avez déjà entendu ça? Bon, faut encore regarder s'il croise les doigts ou pas l'autre. Hein. Puis s'il le fait derrière le dos, on le sait même pas. Hein. Non, mais vous voyez un petit peu. En fait, c'est avoir des moyens pour parjurer. Vous avez déjà entendu ce mot? Parjurer, en fait, c'est violer un serment. Voilà, comme ça, vous savez ce que c'est maintenant, parjurer. C'est violer un serment. Alors que Dieu avait clairement dit, là je prends un autre texte dans Psaume 24, verset 4, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu du salut. » À l'inverse est la malédiction et le jugement indiqué à la fin du verset 12 de Jacques 5, « Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » C'est vrai que certains ont pris les paroles de Jésus de telle manière qu'ils ne font plus aucun serment. Ça existe. Hein, particulièrement tout le mouvement mennonite, enfin ça vient des anabaptistes, les quakers, enfin les différents mouvements, qui en fait ne font plus du tout de serment. Or c'est une possibilité que je pense nous devons respecter. Et c'est le choix si la personne s'est, si cette personne s'est donné sa parole par un oui et un non et la tenir... Ben, tant mieux. Et la Confession baptiste de Londres de 1689 a choisi d'être sensible à ce problème de confiance, de conscience, ce problème de conscience. Hein, parce qu'en fait, la Confession de foi de Westminster disait que celui qui ne voulait pas faire de serment péchait. Vous voyez ? Tandis que la Confession de foi réforme baptiste, 1689, qui reprend beaucoup de la Westminster, à cet endroit-là, ils ne reprennent pas cette partie-là. Donc il n'est pas dit que celui qui ne veut pas faire de serment pêche, parce qu'on a cette notion de la conscience que quelqu'un peut avoir de dire ben, « moi, quelque part, je ne peux pas vivre ce serment ». Par contre, nous croyons, je ne suis pas mennonite, même si j'ai des ascendants, je n'ai pas cette conviction-là, nous croyons qu'il existe des serments légitimes. J'ai juste voulu lire deux parties de l'article 23 de la 1689 qui parle de cela. Un serment légitime fait partie du culte religieux lorsque la personne qui le prête dans la vérité, la justice et le jugement prend Dieu à témoin de ce qu'elle affirme et s'en remet à son jugement quant à la vérité ou à la fausseté de ce qu'elle affirme. Donc ça correspond à ce qu'on a vu avant, hein. Il n'y a que au nom de Dieu. Et deuxièmement, les hommes ne peuvent prêter serment que par le nom de Dieu, on y revient, lequel doit être prononcé avec sainte crainte et respect. C'est pourquoi prêter un serment en vain ou de façon précipitée par ce nom glorieux et redoutable ou par quoi que ce soit d'autre est un péché et doit être exécré. Ça c'est ce que Matthieu et Jacques ici dénoncent. Cependant, pour certaines questions ou en des occasions importantes, pour la confirmation de la vérité ou pour mettre fin à des querelles, prêter un serment est autorisé par la parole de Dieu, si bien qu'en telle matière, il faut prêter le serment légal imposé par l'autorité légitime. Voilà, donc je ne pense pas que Jésus ou Jacques ont annulé les serments, les mettant au rang de mauvaises choses, parce que si les serments étaient une mauvaise chose, l'Éternel a fait des serments. Vous voyez le lien ? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ils remettent le serment à sa juste place, comme étant la vérité avec une crainte vécue devant Dieu. C'est vivre l'intégrité au quotidien. C'est notre foi en Jésus qui nous pousse à vivre dans la vérité, en fait. Et cette vérité nous rend libres. Franchement, si vous dites la vérité, vous n'avez pas peur que quelqu'un découvre quelque chose. Vous êtes libre. Libre. Et elle nous écarte de toute corruption. Voilà pourquoi j'ai intitulé ça « anti-corruption ». La foi en Christ nous pousse à cela. Et nous sommes prêts ensuite à prendre des engagements solennels dans des occasions particulières et encadrées. Ça signifie que tous les « je te jure », enfin, etc., et consorts de la vie quotidienne sont à bannir, à effacer de notre cœur et de notre bouche. Et si ça arrive, que faire ? Allons à la croix. Ne nous flagellons pas. « Oh non, j'ai encore dit ça. » Et puis vous dites encore un juron supplémentaire. Non, allons le déposer à la croix. Le Seigneur veut nous faire avancer. On va encore y venir tout à l'heure. Parce que justement, j'aimerais réfléchir à l'implication de cela dans notre cœur, justement. Le fait de vouloir jurer pour des choses quotidiennes et non officielles manifeste en fait ce qu'il y a dans notre cœur. Jurer en fait est une façon de chercher à maîtriser personnellement la vérité et le mensonge. En fait, on va chercher à le maîtriser. Et nous pouvons le faire en fait face à notre propre cœur en pensant que si je jure, je vais maîtriser. Et on peut même se dire, si je jure, eh bien en fait je vais encore mieux tenir. L'engagement, donc je vais pas tomber si je jure. Si je jure pas, je tombe. Si je jure pas, je tombe. Et si je jure, je ne tombe pas. Ça fait comme un peu superstitieux, cette histoire. Hein? Non. Je veux dire, on n'est pas dans cette notion. Et vous verrez, on peut prendre des engagements. Hein? Mais dans cette notion quotidienne, non, on ne cherche pas à le maîtriser de cette manière-là. Parce que malheureusement, nous disons souvent des choses que nous ne tenons pas. Et alors, que pouvons-nous faire ? Aller vers notre Seigneur. Mais vous savez, parfois, on veut, vers ceux qu'on n'a pas forcément trop confiance, on va vers eux et on va dire, mais toi, je veux que tu fasses un serment. Je veux être sûr que ce que tu me dis est vrai. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de vouloir maîtriser la vérité et le mensonge chez l'autre. C'est le cœur que nous devons viser. Vous savez, un cœur transformé, ne cherchant que la vérité, n'aura pas besoin de serment. Un cœur transformé, ne cherchant que la vérité, n'aura pas besoin de serment. Ses paroles seront simplement vécues. Et dans le quotidien, un cœur rempli de vérité n'aura pas besoin d'affirmer que ce qu'il dit est vrai. Je le dis, c'est vrai. Pas besoin de dire, mais c'est vrai ce que j'ai dit. Ça me fait toujours un peu sourire, les jeunes ils le savent, parce que de temps en temps, ils ont des fois cette expression « en vrai ». Alors souvent je leur dis « pourquoi tu dis en vrai ?» Parce qu'il dit « en faux ». Parce que quand tu ne me dis pas ça, ce n'est pas juste. Enfin, ils m'ont déjà entendu. C'est dommage. C'est la réalité. Quand on parle, ça doit être vrai, point. Ne cherchons donc pas à emballer nos paroles avec un papier cadeau de serment, mais plutôt à faire de nos paroles de vérité un beau cadeau. Et pour cela, la repentance et la foi sont les outils principaux. Parce que quand ils vont toucher nos cœurs, et quand on dit quelque chose qu'on n'a pas pu tenir, bon, pour X raisons, bien sûr, on aura toutes les excuses du monde. Oui, mais c'est sorti de notre bouche, donc c'est à nous de l'assumer. Donc c'est auprès du Seigneur qu'on peut aller le déposer. Et apprendre à ne plus faire de même. Il est vrai, par contre, comme j'ai dit, qu'on prend parfois des engagements solennels, qui sont aussi des serments. Généralement, nous y posons des questions importantes aussi pour qu'on soit au clair, qu'on est dans un cadre important. Par exemple, lors du baptême, nous posons des questions très claires. Et en même temps, c'est une manifestation visible de l'œuvre invisible de Dieu dans le cœur. C'est vrai que ça, c'est le cas, mais c'est aussi un engagement public. Quelque part, l'action est un serment. C'est un engagement public devant tous. J'appartiens à Christ et je vive pour lui. Ou lors de la signature du registre de l'Église, on le dit aussi, c'est un engagement légal qui est engagé lors de la... Donc on commence cet engagement lors de la demande de membre. Ou lors d'un mariage, c'est un engagement à vie dans une relation exclusive. Ou quand on devient ancien, c'est aussi un engagement qu'on prend devant l'Église. On a vécu il n'y a pas très longtemps ici cela. Ou encore au tribunal lorsqu'il faut témoigner. Ok, donc il y a des situations, c'est vrai, où les serments peuvent être légitimes. Mais en parlant de notre cœur, j'aimerais encore souligner un élément avant d'arriver à la conclusion. C'est l'exemple de Pierre qui devrait vraiment nous encourager. Vous savez, Pierre a suivi Jésus lorsqu'il était arrêté, vous vous souvenez? Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a renié Jésus 3 fois. Ouais, mais pas seulement ça. Vous savez ce qu'il a fait la 3e fois? Il a juré. Et puis il a quelque part dit que Dieu me condamne si je connais cet homme. Vous imaginez? Un peu la situation la pire, quelque part. Matthieu 26, 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt... Pierre a fait un serment. Il jure ne pas connaître Jésus en faisant des imprécations. Il s'est mis sous la malédiction de Dieu. Vous saisissez là? Il jure de ne pas le connaître. Vous savez ce qu'il a fait quelques heures plus tôt? Il affirmait à Jésus qu'il resterait fidèle jusqu'à la mort. Ça montre la tendance à affirmer... régulièrement, mais c'est vrai, à tout moment, mais c'est vrai. Ça expose le cœur de Pierre, hein. Ça l'expose vraiment. Mais vous savez, quand on regarde le cœur de Pierre, on voit le nôtre. On voit le nôtre. Et là, ce que je nous encourage, c'est d'avoir le même réflexe que lui. Quand il voit Jésus sur le rivage, quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il part en courant? Mais non, il va en courant vers Jésus, en fait. Il n'attend pas, il veut être vers lui malgré sa trahison, parce qu'il s'est repenti, il veut être proche de son maître. Donc saisissons cet espoir par la foi. Si Jésus a accueilli Pierre, qu'il a si vilainement trahi et renié, il nous accueillera, nous aussi. Il nous fera grâce... et nous conduira dans un chemin de l'intégrité. Il ne veut pas nous laisser où on était, il veut nous faire progresser. Comme il l'a fait pour Pierre. Et même si parfois on retombe, qu'est-ce qui va se passer? Revenons à Christ. Il va continuer à nous donner sa grâce et nous faire progresser. C'est ainsi que nous pourrons aussi vivre dans l'intégrité en reconnaissant notre péché, d'avoir trop souvent cherché à maîtriser notre cœur par des mascarades de « je te jure que ». C'est ce qui est dans ce texte ici. En vrai, je te promets que c'est vrai, qu'on n'a plus besoin lorsque le Seigneur nous purifie et que sa vie grandit en nous. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Vivre notre foi, c'est vivre d'une façon intègre. Et lorsque nous entendons une parole sortir de notre bouche qui est corrompue, eh bien, nous allons tout de suite à la déchetterie de la croix. Puis on va poser ça là et se réjouir que Christ a payé pour cela, pour qu'on en soit libéré, afin qu'on soit purifié et que nous puissions grandir. J'aimerais que nous rappelions en conclusion que Jésus a tenu parole dans tout ce qu'il a dit. Il a parfaitement accompli la volonté du Père. Et vous savez quoi? Il nous l'impute. Il nous le donne. Il nous le donne et nous invite à suivre son modèle. C'est comme ça que ça marche. Il ne nous dit pas « suis mon modèle, puis quand tu seras assez bien, peut-être que je vais te rendre saint. » On serait mal, hein, t'as raison. On serait vraiment très très mal. Non, Il nous donne en fait ce qu'il a vécu. Et vous savez quoi? Dieu a fait quelque chose aujourd'hui qui était très intéressant. C'est qu'il a conduit Loïc à lire exactement le psaume que je veux lire en conclusion dans l'introduction. Parce qu'il voulait que nous l'entendions deux fois. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 15. On ne s'est pas concerté, mais le Seigneur lui connaît tout ça. Donc le psaume 15, et j'aimerais qu'en lisant ce texte, si ce sera la fin, vous ayez vraiment cette notion en fait que c'est Christ qui est décrit. C'est lui en fait qui vit cela. Il nous donne cela qu'il a vécu parfaitement et nous invite par la foi à entrer dans ses traces pour que notre foi devienne en fait cet outil anti-corruption. Alors 15, Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur tes montagnes saintes? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Nous allons prier. Éternel, quelqu'un a écrit il y a quelque temps une chanson qui s'appelle « Garde ma bouche ». Et c'est notre prière. Garde notre bouche, Seigneur. Garde notre bouche de dire des choses qui te déshonorent. Tu vois, Seigneur, combien souvent on pourrait vouloir appuyer ce que l'on dit pour dire « mais c'est vrai !» parce qu'on... quelque part, on revendique quelque chose, ou peut-être parce qu'on cache quelque chose, ou peut-être parce qu'on souhaite obtenir quelque chose. Pardon, Seigneur. Ce texte nous dit aujourd'hui, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Nous te prions, Seigneur, d'avoir une vraie parole, que nous puissions, Seigneur, avoir une vérité totale, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Seigneur, c'est parfait, c'est extraordinaire. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous aspirons. Et nous nous rendons compte que, trop souvent encore, ce n'est pas le cas. Pardon, Seigneur, aide-nous à grandir, à progresser, à nous stimuler les uns les autres, à t'aimer toujours plus, afin que nous ne tombions pas sous le jugement, mais sous la bénédiction. Et nous savons que c'est en Christ que nous la recevons. Merci pour cet exemple de Pierre que tu nous donnes dans ta parole, qui nous montre que même si malheureusement il nous arrive d'utiliser ce moyen pour dire des choses qui ne sont pas vraies, tu n'es pas un Dieu qui nous repousse. Tu es un Dieu qui nous appelle à la repentance et à saisir par la foi l'œuvre de Christ pour progresser et nous réjouir de ton œuvre en nous. Seigneur, tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui nous dit toujours la vérité. Et tu es un Dieu qui a même fait des serments pour que nous puissions être certains, même si, en fait, c'est déjà clair que tu es un Dieu qui dit la vérité, mais que nous puissions être certains dans ce rôle officiel que tu prends aussi vis-à-vis de nous, que toutes tes paroles s'accompliront. Sois loué, sois béni, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.